MC militaire. African rap, autoritaire, majoritaire. On réindexe l'art de guerre et on réitère. J'ai le flow de l'armée de l'air. Tu crois rester pépère, on est venu bouleverser le monde dans ce rap, rap, rap désert. MC de Paris, tu seras notre dessert. T'es sûr de vouloir jouer à la guerre des nerfs. Dégage du fer, on reprend les affaires. La seule chose qui reste à faire, boy, c'est de te taire. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta terre, tes repères. C'est clair, on les respecte plus. Donc on doit t'exclure de ce rap game. On n'attend pas d'excuses, regarde ton flow, j'aime. God damn it, j'ai la Congo Dynamics. J'suis revenu au bled pour changer la dynamique. Yeah, yeah. This is for my worldwide Congolese, for my French Congolese, yeah, my US Congolese, my Brazilian Congolese, yeah, my worldwide Congolese, Japanese Congolese, yeah, German Congolese, yeah, Portuguese Congolese, worldwide Portuguese Congolese.
Look upon the rising sun. Si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message.
Principe actif, c'est aussi un répondeur. Au 02 32 62 57 32.
Je vais y arriver, hein. Je vais faire un message.
Sortie, événement, résultats sportifs, coup de gueule, info. Bref, le répondeur, c'est aussi votre zone d'expression radiophonique.
Paris, t'as eu un appel qui t'a perturbé.
Mais non, c'est pas un appel qui m'a perturbé.
Allô ? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip au 02 32 62 57 32. On attend vos messages.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene. You set for new lovers, you play your part. A new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper. Seasons wait for your knock.
Tonight another guy. Can we just remember when? When everything was fine, when we were young and reckless. Before it all began, now you think you've come too far. It's real right here, right next to you. Come down, everything's fine. Just leave the pain behind you. It's true.
À l'écoute de RFI, il est 6h ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Lors d'un nouveau journal avec vous, Gaëtan Plenet, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Et à la une, Israël frappe le Liban, l'Iran réplique.
Et Israël aussi, en frappant à son tour plusieurs villes iraniennes ce matin. C'est une première depuis le cessez-le-feu du 8 avril dernier. On va y revenir dès le début de cette édition. On va faire un point aussi sur les différents résultats électoraux après plusieurs scrutins, hier en Arménie, au Kosovo ou encore au Pérou. On parlera des enjeux de la visite en Corée du Nord du président chinois Xi Jinping. Il vient d'arriver. À la une également, la peine de mort prononcée en appel en RDC pour les 54 prévenus du procès de deux experts de l'ONU en 2017. du procès du meurtre de deux experts de l'ONU en 2017, donc dans la province du Kassai. Le premier meeting de campagne en France pour Jean-Luc Mélenchon, un nouveau candidat pour l'élection présidentielle qui aura lieu l'an prochain. Et puis le mondial masculin de football, c'est dans quelques jours que ça commence. Les Iraniens y seront, mais change de camp de base, ce sera finalement le Mexique et non pas les États-Unis. La faute évidemment au contexte géopolitique. Des explosions entendues tôt ce matin dans la capitale iranienne Téhéran, mais aussi à Tabriz et Isfahan, des frappes visiblement israéliennes, puisque l'armée de l'État hébreu a annoncé quelques minutes plus tard avoir visé, je cite, des cibles militaires dans l'ouest et le centre de l'Iran. Une riposte à d'autres frappes iraniennes, elles, qui ont touché Israël hier, les premières depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a un petit peu plus de 100 jours. Un avertissement, ont dit les gardiens de la révolution, qui ont eux aussi présenté ça comme des représailles après les nouvelles frappes israéliennes qui ont visé hier la banlieue sud de Beyrouth. Car depuis des semaines, Téhéran le dit de plus en plus clairement, mettre fin à la guerre en Iran, ça doit passer aussi par la fin de la guerre au Liban. Correspondance à Beyrouth de Paul Ralifé.
Un des principaux objectifs déclarés de la guerre israélo-américaine contre l'Iran est de réduire l'influence régionale de la République islamique en affaiblissant ses alliés extra-étatiques. Au Liban, il s'agit du Hezbollah. Les négociations directes libano-israéliennes sous parrainage américain, desquelles sont exclus le Hezbollah et les représentants de la communauté chiite, s'inscrivent dans ce cadre. Le président Joseph Aoun et le premier ministre Nawaf Salam se sont résolument alignés sur cet objectif. Les deux dirigeants ne ménagent pas leurs critiques à l'égard de l'Iran et accusent le Hezbollah de servir les intérêts de Téhéran. En s'impliquant directement dans la bataille entre le Hezbollah et Israël, l'Iran se pose en protecteur du Liban. Téhéran tente de la sorte de court-circuiter les efforts visant à son éviction de la scène libanaise. Sur un plan plus large, l'Iran va intégrer le Liban dans ses négociations avec Washington. C'est dans ce contexte qu'il faut placer la visite du chef de l'armée libanaise à Islamabad. Le général Rodolphe Haykal doit rencontrer son homologue pakistanais, le maréchal Hassan Bounir, principal médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Une source informée a confié à l'AFP que cette visite s'inscrivait dans le cadre des pourparlers plus larges entre Téhéran et Washington. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Mais pour l'heure, ce n'est pas une solution diplomatique qui se dessine, puisque je le disais, Israël et l'Iran ont repris leurs frappes. Et ce d'ailleurs malgré l'appel que le président américain Donald Trump a passé au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour lui demander, justement, c'est ce que nous apprend le média Axios, de ne pas riposter aux frappes iraniennes. À noter que ce lundi, toutes les écoles sont fermées en Israël, où l'armée annonce également ce matin avoir identifié un tir de missile lancé depuis le Yémen, où les rebelles houthis soutiennent Téhéran. Et puis les gardiens de la révolution iranien annoncent aussi ce matin avoir ciblé, je cite, des groupes terroristes dans le Kurdistan irakien à Souleymanié. Ils ne disent pas exactement qui ils ont visé, mais cette région autonome abrite notamment des bases de groupes rebelles kurdes iraniens accusés par Téhéran d'être au service des intérêts américains et israéliens. Et pour suivre toutes les dernières actualités sur cette guerre au Proche et au Moyen-Orient, vous retrouvez notre live sur RFI.fr. Les premiers résultats sont tombés en Arménie au lendemain des élections législatives et on se dirige vers une large victoire du président Nikol Pachinian, du premier ministre Nikol Pachinian. Son parti Contrat Civil est pour l'instant en tête avec un petit peu plus de 51% des suffrages, presque 30 points devant l'alliance Arménie Forte du milliardaire russo-américain Karapetian. Pachinian, lui, est au pouvoir depuis 2018 et il tente d'éloigner un petit peu son pays de Moscou et de le rapprocher au contraire de l'Union européenne et des États-Unis. Autre législative qui avait lieu hier au Kosovo, les troisièmes en un petit peu moins d'un an et demi, alors que le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord, notamment sur l'élection d'un nouveau chef de l'État. Alors, nouvelle dissolution en avril, et pas sûr que les premiers résultats du scrutin d'hier permettent de sortir de l'impasse. Le parti du Premier ministre sortant, Albin Kurti, semble arriver en tête, assez largement, c'est vrai, avec 43% des voix, sauf que c'est beaucoup moins que lors du précédent vote de décembre prochain. À Pristina, Laurent Rouy.
Si le parti du Premier ministre reste en tête des résultats du vote, il voit ses soutiens passer de 51% des suffrages au précédent scrutin à 43% cette fois-ci. Une chute de 8 points qui pourrait renvoyer le parti autodétermination sur les bancs de l'opposition si les autres formations politiques s'allient. La Ligue démocratique du Kosovo, le parti de l'ancienne présidente Vjosa Osmani, dont l'élimination de la course présidentielle avait entraîné la dissolution du Parlement, arrive troisième avec presque 18% des suffrages, en hausse de 4,5 points. Surtout, le taux de participation s'établit à 36% des votants, en chute libre par rapport à décembre 2025, lorsque presque 48% des électeurs s'étaient déplacés. Ces résultats constituent un camouflet pour le Premier ministre Albin Kurti, vu comme à l'origine de la crise institutionnelle que traverse le Kosovo. Son parti reste tout de même la première formation du pays, reste à savoir si cela suffira à former une majorité et donc le futur gouvernement. Laurent Wipristina, RFI.
Et puis on votait hier aussi au Pérou, cette fois pour le second tour de la présidentielle. Là encore, pas de résultat définitif, avec un duel qui s'annonce très serré entre la candidate de droite Keiko Fujimori et son rival de gauche Roberto Sanchez. Xi Jinping a foulé le sol nord-coréen il y a un petit peu moins d'une heure maintenant, début d'une visite de deux jours pour le président chinois. C'est une première depuis 2019. Il veut montrer que si Pyongyang et Moscou se sont, c'est vrai, rapprochés ces dernières années, eh bien la relation entre Pékin et la Corée du Nord s'améliore, elle aussi, après plusieurs années de froid, Nicolas Roca.
Une relation transactionnelle où chacun y trouve son compte. Voici comment Lee Song-yeon, chercheur à la fondation George H.W. Bush, décrit la dynamique entre Pékin et Pyongyang.
L'enjeu pour Kim Jong-un est très clair. Il exige que la Chine approuve tacitement l'expansion de son arsenal nucléaire qu'il a mis en avant de manière spectaculaire ces derniers jours.
Depuis un nouveau centre d'enrichissement d'uranium ce mercredi, le leader nord-coréen a assuré avoir accru exponentiellement la puissance nucléaire du pays.
Je pense que cela marque la fin définitive du discours traditionnel sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. En se rendant à Pyongyang immédiatement après que Kim ait dévoilé de nouvelles capacités massives d'enrichissement d'uranium, Xi Jinping contribue de fait à normaliser l'existence d'une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire.
Mais la Chine espère aussi faire avancer ses intérêts.
En contrepartie, le président chinois Xi Jinping attend un respect absolu de ses exigences et cherche probablement à s'assurer des points d'ancrage géopolitique à long terme. Par exemple, l'accès à la navigation dans la mer du Japon via l'estuaire du fleuve Toumen.
Cela offrirait à Pékin un nouveau corridor commercial pour le nord-est du pays, enclavé mais très industrialisé. Un accès supplémentaire précieux ouvrant potentiellement les routes de l'Arctique, mais une compensation limitée face à la reconnaissance tacite d'une Corée du Nord nucléaire et plus confiante que jamais.
Autre visite, celle du pape en Espagne. Elle a commencé samedi et après une messe géante qui a réuni plus d'1 200 000 personnes à Madrid hier, Léon XIV prononcera un discours tout à l'heure devant le Parlement espagnol. Il doit aussi rencontrer des victimes d'agressions sexuelles commises au sein de l'église. RFI, les 5h08 à Kinshasa. Le verdict est tombé en RDC au procès en appel des meurtres de Zeida Catalan et Michael Sharp, deux experts de l'ONU tués en 2017 dans la région du Kasaï. Et peine de mort prononcée pour les 54 prévenus, notamment pour le colonel Mambueni qui avait été échappé en première instance, condamné alors à 10 ans de prison. Et bien finalement, peine capitale pour lui aussi. Elisabeth Morsebi est la sœur de Zeida Catalan, l'une des deux victimes, et ses sentiments sont mitigés.
Après plus de 9 ans de deuil, d'incertitude et de bataille judiciaire pour obtenir la vérité, nous sommes à la fois soulagés et tristes. C'est un soulagement car c'est une étape importante pour reconnaître enfin leur responsabilité, et de la tristesse car aucun verdict ne pourra ramener ma sœur Zeida, ni Michael Chaps, ni leurs collègues congolais, ou toutes les victimes innocentes des violences dans le Kasaï. Nous pensons qu'avec toutes les preuves collectées, notamment ces enregistrements attribués au colonel Mambueni, qui dévoilent que la présence d'experts onusiens pourrait compromettre l'autorité de l'État, ce qui interroge sur les circonstances de ces meurtres. Pour nous, il reste beaucoup de questions, nous ne sommes pas intéressés par les spéculations. Il est important d'enquêter sur ces individus, plus haut dans la hiérarchie, qui auraient pu détenir des informations capitales ou participer à cette conspiration. Le verdict rendu en appel n'est qu'un début, pas le chapitre final.
Des propos recueillis par Sophia Namazian. La RDC et ce nouveau bilan communiqué par les autorités, 515 cas d'Ebola confirmés dans le pays, dont 91 décès, mais aussi 12 guérisons. On va y revenir évidemment dans nos éditions africaines ce matin encore, alors que la commissaire européenne Adja Labib était à Bounia hier dans l'est de la RDC, capitale de l'Ituri, durement frappée par cette nouvelle épidémie. La terre a tremblé fort aux Philippines, un séisme de magnitude 7,8, au moins un mort, alors que plusieurs bâtiments se sont effondrés dans le sud du pays. Une alerte au tsunami a été déclenchée, les habitants des régions côtières ont été appelés à évacuer, même chose d'ailleurs en Indonésie. En France maintenant, premier meeting de sa 4e campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était à Saint-Denis hier, en banlieue parisienne. 26 000 sympathisants ont fait le déplacement selon son parti, la France Insoumise. Il continue à dire qu'il est la seule chance de victoire de la gauche pour le scrutin de l'an prochain, rejetant toujours aussi fermement l'idée d'une primaire pour désigner un candidat unique. Alors, il a pu dérouler les grands axes de son programme et s'est notamment exprimé sur l'actualité récente dans le pays. Le meurtre de Liana, une collégienne de 11 ans dont le meurtrier présumé avait fait l'objet de plusieurs plaintes sans qu'il ne soit arrêté. Alors que les critiques affluent sur une mauvaise gestion, voire une responsabilité de la justice et des forces de l'ordre, eh bien Jean-Luc Mélenchon propose, lui, une loi contre la pédocriminalité et les féminicides.
Quand un crime odieux, écœurant, comme le meurtre de la pauvre petite Liana, nous révolte comme aujourd'hui, gardons-nous d'ignorer ses racines profondes, car il y en a. Proposons une loi globale contre la pédocriminalité et les féminicides. Cela n'a guère intéressé jusqu'à présent les chantres des discours sécuritaires, pas davantage que les crimes racistes et homophobes ou la mort au travail. Et souvenons-nous que les coupes budgétaires alimentent le crime. Quand manque de moyens, la justice et la police judiciaire plus utiles que les chasseurs de manifestants.
Des propos recueillis par Victorien Villaume. La Coupe du Monde masculine de football, ça commence jeudi dans les trois pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et c'est au Mexique, justement, à Tijuana, que s'est installée la sélection iranienne. Ce n'est pas ce qui était prévu au départ, hein. Notamment, il devait dormir en Arizona. Mais étant donné la guerre entre l'Iran et les États-Unis que l'on évoquait tout à l'heure et les difficultés pour obtenir leur visa, eh bien, les Iraniens ont changé de plan. Correspondance au Mexique de Gwendolina Duval.
Les joueurs ont débarqué dimanche au petit matin sur le territoire mexicain, accueilli par un groupe de quelques sympathisants qui les attendaient devant l'aéroport. Une arrivée discrète, sans plus de protocole. La représentante du gouvernement mexicain auprès de la FIFA, Gabriela Cuevas, a souhaité la bienvenue à la sélection d'Iran sur les réseaux sociaux. Le premier sorti de l'avion, le défenseur Ehsan Arsafi, a déclaré que son équipe est prête pour ce mondial, malgré la situation en Iran qui a fortement perturbé leur préparation. L'entraîneur Amir Galenoi a ajouté que l'équipe aurait dû arriver plus tôt pour avoir le temps de récupérer du décalage horaire et de plus de 20 heures de vol. Les joueurs pourront aller aux États-Unis pour disputer les matchs du groupe G, mais jusque-là, leur visa ne permet qu'un séjour de courte durée, le jour de la rencontre uniquement. Et 15 membres de l'équipe technique qui accompagne la sélection n'ont toujours pas le feu vert des autorités américaines pour traverser la frontière. Jusqu'à son premier match, l'équipe va rester et s'entraîner à huis clos, un important dispositif de sécurité avec la mobilisation de la garde nationale mexicaine est déployé pour protéger l'hôtel et la sélection iranienne pendant ses déplacements. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Merci d'écouter RFI, les 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on est en Argentine pour parler de la grosse hausse de popularité pour un footballeur néo-zélandais qualifié de joueur le moins connu du mondial qu'on évoquait à l'instant. Mais ce n'est plus le cas, il n'est plus le moins connu. Et c'est justement grâce à ce titre dont il se serait au départ, en tout cas a priori, bien passé. Et puis on sera à la Biennale d'art de Venise, au pavillon de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, direction la Belgique, avec la sortie il y a quelques jours du documentaire « Métis, 5 femmes contre un crime d'État ». Le récit du combat judiciaire de 5 femmes métisses contre l'État belge. Elles sont nées dans les années 40 ou 50, sous administration coloniale, dans ce qu'on appelait alors le Congo belge. Leur père était blanc, leur mère était noire, et c'est pour cette raison qu'on les a enlevées à leur maman. Elles avaient alors entre 2 et 5 ans. Elles ont été placées dans des institutions religieuses. Ce fut le cas d'ailleurs de milliers d'autres enfants métisses. En 2024, ces 5 femmes, elles ont gagné leur procès contre l'État belge. Et c'est ce procès en appel que le film suit, justement, tout en racontant l'enfance et les traumatismes aussi. Reportage à l'avant-première de ce documentaire avec Jean-Jacques Herry.
Sur les premières images, on voit Léa, Noël, Monique, Simone et Marie-Josée marcher côte à côte. Lentement, elles avancent.
Flash, fly. Cake, cake, cake. In the middle of the trees. My knees. A mistake. In a phone. Is there a cut in the phone? Is there a cut in a phone? dragon. I prefer him in the middle of my words. Cock jock, no clock. In the middle of, is there a cock?
Peu importe quoi que ce soit, moi je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique. La force de vouloir de. Alors tout le monde va parler. Or malheureusement, parler c'est un art.
Vous